des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Priscille.
Dans le cadre de vos chroniques, les femmes écrivaines, vous nous parlez aujourd'hui du livre d'une femme d'origine chinoise. Alors, elle n'est pas à proprement parler une écrivaine, elle est plutôt pianiste de métier, et quelle pianiste ? Et donc l'auteur d'une autobiographie qui vous a marqué, Jean ?
Oui, profondément. J'hésite à le dire d'ailleurs parce que ça sort complètement du cadre habituel de nos chroniques et ça sort aussi du cadre de la littérature. Ça n'est pas de la littérature, c'est pas un roman, c'est pas une chronique non plus, c'est pas vraiment une autobiographie. Disons que c'est un témoignage, mais un témoignage tellement chargé de sens, d'émotion, qu'il demande à être pris en compte. Et puis aussi le fait que l'auteur, c'est l'essentiel, hein, a vécu aux premières loges la tragédie qu'a été la révolution culturelle en Chine. Et dernière caractéristique qui nous la rend estimable plus que ça, le fait qu'elle participe de trois cultures, la culture chinoise dans laquelle elle a grandi et qui l'a brisée, on peut dire, la culture anglo-saxonne qu'elle a, pour ainsi dire, prise d'assaut puisqu'elle est allée, elle a émigré aux États-Unis après la fin de la tragédie chinoise. Et enfin, la culture française qu'elle a choisie, c'est maintenant d'ailleurs une Française à part entière, puisqu'elle habite Paris. Paris qui est son point de départ des nombreuses tournées qu'elle effectue à travers le monde.
Oui, et où elle est devenue une pianiste reconnue.
Tout à fait.
Donc l'intérêt du livre, on le comprend bien, c'est le récit en fait.
C'est le récit.
C'est des histoires personnelles qui s'impriquent dans une histoire.
Dans une histoire collective. L'histoire personnelle est touchante, l'histoire collective est dramatique. Alors, elle s'appelle Zhu Qiaomei, Qiaomei étant le prénom. Elle est née à Pékin, vers la fin des années 50, 49 peut-être, dans une famille bourgeoise, ce qui n'est pas facile au pays de Mao. Mao vient d'arriver au pouvoir, ou va y arriver d'un moment à l'autre. Le Parti communiste, en fait, vient de s'emparer du commandement après une longue guerre civile. Et la famille de Qiaomei va d'un coup, plongé dans le prolétariat le plus obscur, le plus pauvre. Le père était médecin, il devient petit employé dans une épicerie. La mère apprend la musique à des élèves d'une école primaire. Elle va d'ailleurs, sur ses très maigres économies, acheter un piano. Et l'aventure de ce piano va être le fil rouge du récit. C'est aussi une épopée de la musique que ce livre, que ce récit. Alors, la musique dirige la vie de Qiaomei, qui entre à l'école de musique pour enfants. Elle est surdouée. À 11 ans, elle est admise au conservatoire de Pékin. Elle y trouve un professeur tout à fait remarquable, qui à la fois l'initie aux grands musiciens occidentaux, ce qui lui sera beaucoup reproché plus tard, et en même temps, il la pousse à lire. Elle découvre les grands écrivains, Tolstoï, Zola, Flaubert, j'en passe. Et à 13 ans, elle est mûre pour son premier récital public, ce qui est quand même assez formidable. Elle a choisi comme programme Beethoven, Mozart et Chopin.
Très occidental. Oui.
Oui.
Enfin bon.
Oui.
C'est la musique classique telle
qu'elle
a enseignée.
Oui, tout à fait. Elle a été saisie par la musique classique occidentale. Et puis arrive le drame, soudain, brutal. C'est un soir d'été, il fait très chaud. Avec trois copines, elles montent sur la terrasse du conservatoire, enfin d'un des bâtiments du conservatoire. Et puis par jeu, elle dit tout d'un coup « Et si je sautais ?» Malheureusement, le bruit de leur voix a été entendu par un gardien qui fait son rapport. On convoque les coupables, et en particulier Xiaomei, que ses copines, évidemment, dénoncent, parce qu'on est déjà dans l'ère de la dénonciation. Et on fait tout un esclandre autour du fait qu'elle a parlé de se suicider, alors qu'en réalité, elle n'avait pas du tout envie de se suicider. Mais on la met au secret, pour ainsi dire, on l'enferme, on fouille ses affaires, on découvre son petit journal de jeune fille dans lequel elle a, avec le romantisme de son âge, parlé comme d'une héroïne enviable d'Anna Karénine, du suicide d'Anna Karénine. Et bon, elle est jugée, condamnée, et on l'oblige à faire son autocritique, imaginez, à 13 ans, devant 200, 300 camarades réunis. En fait, elle a été si durement punie parce qu'elle est née de famille bourgeoise. Elle est de mauvaise origine, comme on dit à l'époque. Alors, c'est le début d'une histoire terrible où son histoire personnelle se confond, en effet, vous l'avez dit, avec l'histoire de tout un peuple. La Chine est secouée de folie, on ne peut pas trouver d'autre expression. Les étudiants prennent le pouvoir, ils sont organisés en gardes rouges, les fameux gardes rouges, qui prennent une espèce de plaisir sadique, en même temps enfantin, à détruire méthodiquement les structures sociales, morales, familiales, économiques du pays, dans cette espèce de délire, de réunion, d'autocritique, de dazibao, de violence, d'humiliation infligée à tous ceux qu'on soupçonne de capitalisme. Et le capitalisme commence très bas, il suffit d'être un petit commerçant pour être un capitaliste. Nous avons eu en France une République très très affaiblie en ça. Quand on, ceux d'entre nous, j'en suis, qui ont vécu cette période, ont un petit peu connu ça avec les délires de la Sorbonne, de Nanterre. Bon, c'était évidemment loin de là, mais enfin, il est vrai que les 68ards se réclamaient beaucoup à l'époque de Mao et de son escorte. Alors, le résultat en Chine, c'est terrifiant, tout le monde le connaît, mais rappelons-le d'un mot, c'est l'anarchie, c'est la misère générale.
Et oui, c'est le côté massif qui est...
Ah, 20 millions de morts. Alors évidemment, c'est à l'échelle de la Chine, qui est un immense pays, mais 20 millions de morts, c'est quand même le tiers d'un pays comme la France. C'est quelque chose d'affolant. Rien ne fonctionne plus. Sauf que la révolution culturelle en 1966, et Guillaume Haï doit avoir 17 ans, envoie tous les habitants des villes à la campagne. C'est le fameux rêve de Courteline, je ne sais plus, qui disait que ce serait beaucoup mieux de construire les villes à la campagne. Alors, la famille de Guillaume Haï est dispersée, chacun des membres de la famille va dans un endroit différent, et elle-même est envoyée en camp de travail. Elle va en connaître 4 successivement, où évidemment sa santé se dégrade peu à peu. Elle perd beaucoup de poids, elle est malade, et on lui torture l'esprit. Hein. C'est une espèce de gavage du petit livre rouge de Mao, qu'on apprend par cœur, qu'on récite, qu'on lit en permanence. On reconfigure son esprit, en quelque sorte, le but étant évidemment d'inculquer à tous les habitants du camp tout ce qui n'est pas le bonheur de vivre et de mourir pour Mao. C'est plus que de la religion, c'est un mysticisme abominable. Naturellement, elle risque d'y perdre beaucoup, et pour commencer, son âme. Elle devient même une bonne révolutionnaire.
Et la pratique du piano, alors, comment fait-elle ?
Alors, plus du tout de piano, bien sûr, parce que le piano, c'est bourgeois, c'est capitaliste, sauf quand on interprète les opéras de Madame Mao, mais elle n'y a pas accès pour le moment, ce sera un tout petit peu plus tard. On a brûlé toutes les partitions du conservatoire de Pékin, on a fait fondre toutes les cires, puisqu'à l'époque, ce sont des disques de cire. Le conservatoire est vide. Les professeurs ont été renvoyés à coups de pied, obligés de faire leur autocritique, de défiler en criant « Vive Mao !» Enfin, que sais-je. C'est vraiment une grande nation qui brusquement, oui, il n'y a pas d'autre métaphore, devient folle. Elle va être sauvée par la musique, sinon la nation, du moins Xiaomé. Et de la façon la plus romantique qui soit, peut-être j'en dirai un passage tout à l'heure, un jour, elle trouve dans le camp, parce qu'elle a entendu le bruit d'une musique qu'elle a identifiée comme étant celle d'un accordéon, elle trouve un vieil accordéon au rebut, elle promène ses doigts sur les touches, elle en tire un son, et comme miraculeusement, sa vie bascule dans l'autre sens, elle est reconquise par la musique, elle retrouve la grâce perdue. Alors, sous prétexte de répéter les opéras révolutionnaires de Madame Mao, j'en parlais, elle recommence à jouer du piano. Elle va même faire venir son vieux piano, elle va le faire revenir au camp, et comme il fait trop chaud dans le camp pour le piano, elle jouera dans une espèce de pièce réfrigérée, dans un froid absolu, et elle recommence méthodiquement, toute seule, à rééduquer ses doigts. Jusqu'au moment où le poids écrasant de la révolution culturelle se défait, où le pays recommence à vivre à peu près normalement, elle quitte son camp et en 3 mois, travaillant comme une folle le jour, la nuit, elle prépare le concours d'entrée en classe supérieure du conservatoire de Pékin qui, entre-temps, a recommencé à fonctionner. Elle est une des trois seules admises. C'est en 1976. Elle a 27 ans.
Oui, à 27 ans, quand même, pour une pianiste, en général,
oui,
beaucoup
tard.
De choses sont jouées. Oui.
Et ça, c'est une part du miracle. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que, je dirais volontiers que ce bouquin, au-delà de la valeur personnelle du récit, c'est un hymne au courage des femmes. J'ai beaucoup d'admiration pour le courage des femmes. Tant pis si on me traite de sexiste. Je les ai beaucoup admirées et suivies à travers l'histoire. Et là, c'est fantastique ce que cette fille peut faire. 10 ans d'abrutissement physique, culturel, et recommencer comme un débutant et être admise en classe supérieure. Elle se survit, elle se dépasse, elle se surpasse, elle s'accomplit. Et c'est pas fini, parce qu'en 1980, donc elle a 30 ans, un peu plus de 30 ans, après 3 années de vie, on peut dire, crucifiée par le travail, elle s'envole pour les États-Unis. Elle réunit le peu d'économie qu'elle a et elle va vivre quelques années la vie ouverte, sûrement, dans cette grande démocratie américaine où on dit que tout est possible et où tout l'est, sûrement, le pire est le meilleur, mais où les barrières sociales sont quand même très élevées. Elle va vivre cette vie incertaine en donnant des leçons, mais elle a toujours cet espoir en elle de devenir une grande concertiste. Et elle va profiter d'une occasion pour venir en France. Elle est conquise par la France. On peut dire qu'elle entre en France. Je passe les péripéties. Elle est obligée de repartir aux États-Unis parce que son permis de séjour est épuisé. Il faut qu'elle retourne aux États-Unis pour reconquérir un passeport. Enfin bref, elle revient en France. Elle s'y implante définitivement. Elle trouve un petit appartement, grâce à des amis que je connais d'ailleurs, et clin d'œil, Quai Conti. À côté d'ici, je ne sais pas où exactement, mais à côté d'ici.
Elle contracte un mariage blanc aussi.
Oui, elle contracte un mariage blanc qui lui a permis, oui, qui lui a permis de franchir les frontières. Alors, le milieu artistique parisien, c'est tout en leur honneur, l'accueille formidablement bien. Et grâce à eux, elle va pouvoir donner un premier concert à Saint-Julien-le-Pauvre. Elle a choisi les variations Goldberg de Bach. C'est un triomphe. Elle fait un premier disque avec les mêmes Goldberg. Et puis, elle commence une série de tournées internationales. Et partout, elle fait un triomphe. Partout, elle est reconnue mondialement comme une pianiste virtuose et comme une immense artiste. Vous l'avez peut-être entendu, d'ailleurs,
effectivement,
vous qui nous écoutez.
Oui, bon, pour ma part, je l'ai entendu et c'est une immense pianiste.
Oui, oui.
Et je l'ai entendu dans Bach et dans le clavier bien tempéré, si je me souviens bien. Et c'est des partitions qu'elle avait recopiées de tête,
oui,
dans les camps.
C'est vrai. C'était pendant les leçons où on enseignait la doctrine de Mao. Il y en avait tous les jours. Où on récitait les opéras de Madame Mao, les livres de Madame Mao. Et en cachette, elle devait faire comme les écoliers qui trichent en classe. Elle recopiait la partition.
C'est dire l'esprit formidable que c'est d'avoir mémorisé, photographié ces partitions.
Oui, c'est une grande musicienne, une grande pianiste. Oui. C'est un livre très attachant, c'est un livre douloureux, en même temps joyeux. Ben, je dirais qu'elle n'en remet pas. Elle raconte ses malheurs avec beaucoup de pudeur, beaucoup de simplicité. C'est écrit avec du sang, c'est écrit avec des larmes, mais aussi du soleil, on peut dire, si je puis employer cette expression un peu audacieuse. Et c'est un livre où s'inscrit à la fois le malheur d'une nation et le malheur d'une femme broyée par l'histoire, mais aussi leur renaissance. Et finalement, c'est un livre d'espoir. Il y a aussi des dénouements heureux, pour les individus en tout cas, et peut-être pour les peuples. Et moi, je trouve, si vous me permettez ce petit coup de griffe, pas très méchant, les spécialistes de la délectation morose, comme on disait naguère, qui sont au pouvoir en France depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, devraient de temps en temps se souvenir de ça, qu'il peut y avoir des dénouements heureux.
Jean Moudu, est-ce que vous voulez bien lire un passage du livre où justement se dessine ce dénouement heureux
Oui, j'ai choisi le passage où tout bascule. En quelques mois, Le régime du camp a eu raison de ma santé. C'est naturellement Xiaomei qui parle. Très affaibli, je souffre d'interminables diarrhées qui m'obligent à me traîner 10 fois par jour aux latrines, à l'extrémité du camp d'où je n'ai plus la force de revenir. Sur le chemin du retour, je m'écroule, je me relève, je rampe pour regagner le dortoir. Lorsque j'ai perdu 10 kilos, on se résout à me transférer à l'hôpital. J'y retrouve un ami, Lick, un merveilleux violoncelliste. Je connais Lick de l'école de musique pour enfants où il étudiait le piano. Au conservatoire de Pékin, nous avons longtemps partagé le même pupitre. C'est un garçon au regard vif, direct, généreux et si humain. Il est grand et d'une constitution solide, ce qui ne l'a pas empêché d'attraper une septicémie aiguë. On me fait le même diagnostic. Rien d'étonnant. L'eau que nous buvons est trouble. La nourriture apportée à midi, déposée au coin du champ, est recouverte par le vent d'une pellicule de sable, sale, quand nous y arrivons, enfin, après avoir marché sur plus d'une centaine de mètres. Allongé sur mon lit d'hôpital, je me sens seul au monde. Je me demande ce que je fais là. Comment j'ai pu me retrouver dans cette chambre triste et crasseuse. Je vais mourir. Je le sens, loin de mes parents, abandonné de tous. Ma vie n'aura eu aucun sens, pas plus que n'en aura ma mort. Je pense à ma famille et aux souvenirs que nous avons ensemble. Tout est fini, plus jamais je ne les reverrai, plus jamais je ne connaîtrai la liberté. Dans mes cauchemars, je vois mon père. Il travaille dans les champs et tout à coup il est à terre, écrasé par les chargements que son mal de dos ne lui permet pas de porter. Est-ce qu'il est mort ? Pendant plusieurs jours, je m'enfonce dans mon délire, oscillant entre la vie et la mort, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Un jour, je me sens mieux, la fièvre tombe, petit à petit je me rétablis, on me renvoie au camp pour ma convalescence. Une après-midi, peu après mon retour, alors que je suis allongé sur ma paillasse, j'entends au loin l'écho d'une musique. Je tends l'oreille. Qui peut bien jouer dans le camp, en plein milieu de la journée ? J'arrête de respirer pour mieux entendre. C'est le son d'un accordéon. Je sors pour voir ce qui se passe. Tian, notre chef, se tient dans un coin de la cour, entouré d'artistes. « Tout est en place, alors à ce soir, leur dit-il. » On dirait Hamlet saluant les comédiens arrivant à Elsonneur de son « Vous êtes les bienvenus, mes maîtres, bienvenue à tous ». Ancien instituteur, Tian, au fond de lui-même, est un intellectuel. Il a décidé de profiter de la présence des élèves artistes de Pékin dans la région pour organiser des tournées dans les camps autour de Zhangjiakou. Il a sélectionné pour cela quelques chanteurs, danseurs, instrumentistes. Ça lui coûtera cher plus tard, dénoncé par certains, dont moi-même. Qu'ils ne jugeront pas assez révolutionnaire, il sera contraint de quitter ses responsabilités. Le lendemain, alors que tout le monde est au champ et que je déambule dans le camp, j'aperçois de loin, entreposé sur une table, l'accordéon qui a servi à la représentation de la veille. Je m'approche de lui. Il est vieux, ses touches sont sales, sa lanière usagée, mais cet instrument seul, au milieu de ces bâtiments sinistres, c'est un signe que l'on m'envoie. Il faut en profiter. Je regarde autour de moi, personne. Je me saisis de l'instrument, essaie de jouer quelques notes, toujours rien. Et si j'essayais de jouer un vrai morceau ? Après cette maladie, après toutes ces frustrations, j'en ai trop envie, mais lequel ? Il faut une pièce essentiellement pour la main droite. Je cherche dans mon répertoire, c'est-à-dire dans sa tête. J'ai trouvé la 2e étude de l'opus 10 de Chopin. C'est une étude pour la main droite, assez simple. Pour la main gauche, une étude idéale pour l'accordéon, même s'il me manque des octaves. Je la joue sans fin une grande partie de l'après-midi et les jours suivants, jusqu'à ce que les artistes repartent. J'avais oublié le pouvoir de la musique. Il s'est rappelé à moi.
Merci Jean Mauduit, merci beaucoup pour cette chronique. Donc, je vais donner les références du livre. C'est le livre de Zhu Xiaomei. Le livre s'intitule « La rivière et son secret ».
Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de secret. Donc je suis sur le titre un peu réticent. On pouvait trouver beaucoup mieux.
Bon, et comme sous-titre, quelque chose de beaucoup plus précis, « Des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach, le destin d'une femme d'exception ». C'est paru chez Robert Laffont en 2007. Merci Jean Mauduit, à la prochaine pour une nouvelle chronique.
À la prochaine.